Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Louis. Alors, je ne sais pas si j'ai le sentiment qu'on peut dire des choses en images qu'on ne peut pas dire grâce aux mots, mais en tout cas, je sais que moi, c'est comme ça que j'essaie d'apprendre à me connaître et à comprendre le monde qui m'entoure. Je crois qu'en regardant les images, à l'inverse de gens qui par exemple, utilisent la lecture pour être transcendés, moi, l'image provoque en moi une émotion que rien d'autre n'a égalée à ce jour. Et donc, c'est très naturellement que j'ai eu besoin, moi aussi, de faire des images. Dès la vingtaine d'années, j'ai fait mes premières photos.
Cette année encore, Louis Média a l'immense joie d'être partenaire des Rencontres d'Arles, festival de photographie qui se déroule jusqu'au 25 septembre et qui donne à voir des œuvres qui racontent notre époque. À cette occasion, je rencontre trois photographes auxquels je demande ce que l'on peut dire en images qu'on ne peut pas dire en son. Et d'abord, Maya Inès Thouam, photographe française de parents algériens, qui interroge son héritage et la créolisation, cet entremêlement de civilisations pensé par le poète Édouard Glissant. Dans sa série Réplica, nommée pour le prix Louis Roederer, Maya Inès Thouam se plonge dans l'œuvre d'Henri Matisse pour y déposer son regard à elle, interroger les référents culturels, politiser nos regards. Elle offre la possibilité d'un questionnement joyeux sur l'identité. J'ai rencontré Maya à Aubervilliers. Je suis entrée sur un immense campus industriel dans un bâtiment des années 20 qui fut une ancienne parfumerie et accueille désormais près de 160 artistes dans de larges ateliers lumineux. Le lieu s'appelle Le Push. Pour éviter l'écho des grands espaces et les bruits de marteau-piqueur qui s'agitaient sur le béton dehors, nous nous sommes glissés dans un réduit où s'entassaient de larges toiles sous papier bulle. Et Maya m'a raconté son œuvre. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Alors, j'ai grandi à Paris. J'ai grandi dans le 19e arrondissement. Et à partir du lycée, je suis partie dans un quartier plus bourgeois et dans une école avec d'autres codes. Et ça m'a vachement forgée. En fait, j'ai compris qu'il y avait plusieurs univers et que j'appartenais et un peu à l'un et un peu à l'autre. Aujourd'hui, je considère que dans mes œuvres, le fond va être inspiré de ma culture maghrébine, extra-européenne, on va dire, tandis que la forme va prendre, va suivre l'histoire de l'art occidental. Et donc, je pense que dès l'adolescence, j'ai vite compris que faire partie de plusieurs univers, ce métissage, pouvait être un plus pour moi.
Parce que du coup, vous grandissez dans le 19e arrondissement, vous naissez à Paris, mais vos deux parents sont d'origine algérienne ?
Exactement. Ma mère est née en France, mon père en Algérie, mais ils se sont rencontrés en Algérie et puis sont revenus en France tous les deux pour vivre et nous faire naître. J'ai été très jeune... influencée par ma culture d'origine, sans tout à fait la saisir. Je ne savais pas ce que voulait dire être une petite fille d'émigrée, je ne savais pas ce que voulait dire... Enfin, en tout cas, je voyais ça de manière très négative, sans réellement comprendre pourquoi. Et puis, en fait, c'est en étudiant un peu l'histoire de la colonisation, l'histoire française, tout simplement, que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'embrasse ces deux cultures, et ma culture française et ma culture orientale, pardon. Plus largement, parce que c'est assez intéressant de se dire que ma culture d'origine, elle est intime et elle est étrangère à la fois, puisque je l'idéalise beaucoup, je ne sais pas tout, je véhicule une image de cet Occident qui, de cet Orient qui n'est pas forcément la réalité exacte, mais qui est en tout cas celle de mes grands-parents, mes parents, celle de leur histoire, celle comptée par ceux qui m'entourent.
Qu'est-ce que ça veut dire que vous aviez une image négative de vos origines algériennes ou de l'Algérie? Comment ça se traduisait?
Ça s'est traduit très, très tôt à l'école, quand on regarde l'autre, tout simplement, parce que je pense aussi que je fais de la photo pour essayer de me comprendre moi, et c'est en comprenant l'autre avant tout qu'on apprend à... qu'on se découvre. Et j'ai très vite saisi que je n'étais pas blanche, française, enfin en tout cas j'avais pas d'origine française, et que j'étais différente, mais pas non plus, je m'adaptais totalement à la société, et j'avais des copains et des copines bien sûr, mais j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire d'être mis dans une certaine catégorie de la société ou catégorie de population. Et j'ai voulu en faire une force, plutôt que de me dire que je devais choisir entre mes origines ou ma vie en France. La question ne se posait pas, j'ai pris ce que je voulais des uns et des autres. Et je les ai surtout mis au même pied d'égalité. C'est ça qui est très important dans mon travail. C'est de ne pas de faire en sorte que ce soit en réseau, mais enfin, voilà, penser de manière très équitable.
Vous avez des souvenirs précis de choses auxquelles vous avez été confrontée dans le regard des autres, dans les préjugés, dans des situations particulières?
Non, j'ai jamais vécu de racisme. Enfin, en tout cas, pas... pas traumatisant, mais j'ai été très agacée par l'histoire de mon pays, l'histoire de la France, et j'ai eu envie au début de choisir et de me dire je suis algérienne, j'ai envie de revendiquer cette algérianité dans mon travail. Et c'est que depuis peu, depuis que j'ai donné naissance, que mon fils est français, qu'il était important pour moi de me dire, mon fils, il faut que je lui dise que je suis franco-algérienne et donc que je montre le meilleur de l'un et de l'autre. Et c'est très drôle parce que oui, en effet, plus jeune, j'avais ce besoin de revendiquer plutôt mon pays d'origine et donc une culture que je ne connaissais pas entièrement.
Il a quel âge, votre fils?
Il a 1 an.
Donc vous avez 33 ans, ça veut dire qu'entre le début de votre vingtaine, qui est le moment où vous commencez votre vie d'artiste, comme étudiante avant de le faire comme artiste professionnel, et aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'années où votre travail réfléchit au métissage, à l'identité, etc. Mais où vous vous sentez peut-être perturbée par le métissage, inconfortable peut-être dans le métissage, avec une envie d'un choix plus tranché.
Exactement. En fait, j'ai mis 10 ans à comprendre. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps quand une équipe muséale est venue dans mon atelier et on a parlé de mon travail. J'ai mis 10 ans à comprendre que même si mes engagements étaient tournés vers mes inspirations de ma culture d'origine, la manière, en fait, comme je disais tout à l'heure, la forme physique de ces pièces allait être très occidentale et donc me renvoyait quand même à mon éducation. Et ça, j'étais pas capable de le voir. C'est peut-être aussi en multipliant les pièces, puisque je fais pas uniquement que de la photo, je fais aussi de la sculpture, du dessin, je commence un peu la couture. Et en multipliant les pièces, je me suis rendu compte que j'allais avoir toujours ce systématisme de travailler sur des pièces qui allaient être à mi-chemin entre justement ce que je disais tout à l'heure, ma culture d'origine et mon pays de naissance.
Et alors, comment vous vous lancez après le lycée dans des études des beaux-arts?
Très vite, je sais que je veux créer. Je ne sais pas initialement que je veux être artiste. Être artiste, ça fait flipper. Et puis c'est dur de dire de soi qu'on est artiste. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, même après les beaux-arts. J'avais envie de créer. Je savais que j'avais pas peur de créer. Je sais que ce que je crée parfois peut être très étrange, c'est-à-dire très... Même moi, je vois ma pièce finie à la fin et puis je me dis « Ok, voilà. » Bon, après, je laisse la place à justement le fait que ce soit un vocabulaire ou que je crée un langage photo ou artistique ou plastique particulier, expérimental, je m'impose rien. Alors évidemment, l'esthétique et le plastique est très important, mais ça fait aussi partie de ça. Je pense qu'on ne maîtrise pas tout quand on est artiste, et on fait surtout confiance à l'humain. Et l'idée, c'est de s'exprimer, et peu importe la forme finale, pardon. Et donc, je savais que je voulais produire, que je voulais créer, que je voulais construire. Donc, c'est très vite après le lycée que je me suis tournée vers une prépa artistique et puis que j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris dans la foulée. École super, car école qui nous apprend à être nous-mêmes. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais qui permet également de faire le bilan après 10 ans de pratique sur, en fait... je croyais travailler sur ma culture d'origine uniquement, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais sur moi, et moi, c'était un peu des deux, et c'était pas que l'un et pas que l'autre, et c'était peut-être un peu moins une dichotomie, et peut-être un peu plus fusionnelle, et du coup, en créant des pièces, en fait, on apprend énormément sur soi, et c'est une quête, quoi.
Est-ce que vous avez toujours eu le sentiment que la photo, ou peut-être les arts visuels en général, mais en l'occurrence la photo, vous permettait d'exprimer des choses mieux que d'autres arts, ou d'exprimer des choses singulières, spécifiques, que vous ne pouviez pas exprimer autrement?
Je ne sais pas si je pense que je l'exprime mieux en photo, mais je sais que c'est ma manière de l'exprimer. J'ai trouvé à travers la photo le support principal, moi, de mon expression. Et je sais pas le faire autrement. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé d'écrire sur la photo. J'ai fait une série Révéler l'étoffe sur des femmes essentiellement en Algérie pendant 4 ans. Et je les ai interviewées, photographiées, et je n'ai jamais réussi jusqu'à aujourd'hui à mélanger texte et écrit, et je ne saurais pas comment faire.
Texte
et image, et je ne saurais pas comment faire parce que voilà, c'est pas intuitif, j'y arrive pas. En revanche, faire une image, la sélectionner, lui faire dire quelque chose, la mettre en scène. Oui, c'est une évidence pour moi. Donc, bien sûr, je pense que la photo et pour moi, la pratique plus générale des arts plastiques me permet de créer un langage qui est un peu perso, mais qui est aussi qui essaie de parler au plus grand nombre.
À quel moment vous avez compris que c'était votre langage ?
Assez vite, en prépa, on nous apprend un tas de supports différents, de médiums, et en fait, j'ai su à 20 ans que c'était la photo, et puis je pense aussi que, même si en fait, ce qui est très drôle, c'est que je suis une fan absolue de la peinture, mais ne sachant pas faire de peinture. Et donc, mon idée, c'était aussi de faire de la peinture photo. Voilà.
C'est-à-dire ?
Par exemple, là, avec la série que j'expose à l'église des Frères Prêcheurs, à Arles, aux rencontres, à la 53e édition des Rencontres d'Arles, l'idée, c'était... de travailler, d'expérimenter, de rechercher un certain fauvisme photographique, puisque c'est un genre pictural qui m'intéressait beaucoup et je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait donner en photo. Par ailleurs, avec mes revendications, mes réflexions et un peu de moi, comme pour d'autres séries photos, Ready Made notamment, que j'ai très inspirée de la peinture flamande du XVIIe siècle. Je vais mêler évidemment un tas de réflexions qui me sont personnelles, mais je vais aussi chercher dans l'histoire de l'art... à me confronter à mes pairs et de voir ce que ça donne. Et c'est pas... j'ai pas la prétention de faire un grand art, mais j'expérimente, je cherche, et puis si ça marche pas, ça marche pas.
Tout votre travail semble irrigué par un désir très fort de créolisation. Est-ce que vous pourriez définir ce mot-là pour vous, dans votre travail?
En fait, ce que j'aimais bien dans l'idée de Glissant, d'Edouard Glissant, c'était l'imprévisibilité qui naît dans cette créolisation, qui naît de deux entités culturelles différentes. Et donc, c'est ce que je racontais un peu tout à l'heure. Mon travail, je ne sais pas la forme finale, et je vous dis parfois, ça peut ne pas me plaire entièrement, et c'est pas le propos. Je pense que quand on écrit un livre, on se dit qu'il est peut-être aussi moins bien ou mieux que celui d'avant ou celui d'après. L'idée, c'est que la pièce naisse, c'est que l'œuvre soit faite. Et donc, je vais faire en sorte de mettre ces entités culturelles qui sont intimes, qui sont inattendues, puisque je vais mélanger de l'Orient et de l'Occident, de l'Africain et de l'extra-européen, et voir ce que ça fait. Et je vais sacraliser ces objets, ou je vais les juxtaposer, les faire... les laisser communiquer, et puis je vois ce que ça donne. Et j'avais besoin de mettre toutes ces identités culturelles au même pied d'égalité.
Dans la créolisation qui s'exprime dans votre travail, il y a à la fois les mélanges culturels, il y a aussi les mélanges de supports. Ce que vous dites, c'est-à-dire les différents types d'art, vous reprenez parfois des codes d'art chrétien du XVe siècle, comme quand vous avez fait un retable, vous mélangez la photo et des objets, vous prenez, même quand vous faites référence à Matisse, par exemple, les œuvres que vous avez choisies, pour certaines, c'était déjà des collages. Donc il y a aussi toute une réflexion sur les époques, les types d'art, en plus des différences culturelles. Est-ce que ça, c'est aussi un élément de la créolisation pour vous ?
Oui, tout à fait. Je vais pas m'arrêter. Je me définis pas uniquement comme photographe, donc je fais pas que de la photo et je suis pas inspirée que de la photo. Et je trouve ça d'ailleurs très important de s'inspirer d'un tas d'autres choses quand on est artiste ou photographe. C'est hyper important. Et ce que vous soulignez qui était intéressant, c'était le fait que je vais, avant tout, avant de faire une photo, je vais faire une mise en scène. Donc, ça prend déjà la forme 3D. Ensuite, ça finit en 2D. Mais en ce moment, je suis en train de faire des recompositions d'objets dans de la résine. Donc, ça peut même reprendre la forme 3D. Je ne vais pas uniquement, dans cette créolisation, me contenter d'aller dans un genre artistique particulier, je vais faire des passerelles, des bonds à travers toute l'histoire de l'art, parce que je pense que on est suffisamment libre justement pour le faire avec un peu d'irrévérence de temps à autre, mais c'est tout l'intérêt.
Il y a quelque chose de profondément politique dans vos œuvres. Est-ce que le simple fait d'être une femme jeune française d'origine algérienne et de faire un travail qui intègre les maîtres de l'art occidental. On a parlé de Matisse, on a parlé de la peinture hollandaise, de Dali. Le simple fait de vous arroger le droit de mêler leur travail au vôtre, est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose de politique intrinsèquement ?
Si, après, il faut... Après, enfin, moi, je décide de faire ce que je veux et c'est ce que je racontais. C'est un peu irrévérencieux de temps à autre. Et en même temps, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire? Pourquoi on dit pas à un homme blanc, cis, tu as le droit de, enfin, tu peux te permettre de, et moi non? Je pense qu'au 21e siècle, on nous colle des étiquettes. On en a aussi de par notre héritage et qu'il faut un peu se voilà sortir de ce carcan. Moi, je me sens libre dans tout ce que je produis, mais je sais que je produis des pièces qui sont politiques, mais qui sont douces à la fois. Peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que c'est mon tempérament. Tout simplement, voilà, on va pas mettre une étiquette encore, les femmes sont intimes et machin, mais j'ai pas envie de choquer, de heurter. L'idée, c'est plutôt de révéler de manière par un soft power, en douceur, mais de dire quand même, de dire fort les choses, et voilà, et puis d'être parfois un peu scandaleuse en réutilisant. Je me suis posé la question quand j'ai travaillé autour des pièces de Matisse. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il en penserait? Peut-être que ça le ferait chier. Et d'un autre côté, je me disais, bof, moi je m'en fous. J'ai quand même envie. Pour moi, c'était plus un hommage en fait, parce que je crois que si j'avais été Matisse, j'aurais été plutôt. Très heureux de me dire que des petits jeunes essayaient de comprendre ma manière de composer, mon rapport à la couleur, à la spatialité. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt un hommage.
Pourquoi vous avez imaginé que ça pouvait le faire chier?
Parce que il peut se dire oh là là, quelle horreur. Non, mais comme je ne sais pas ce que je vais produire, que je ne sais pas à quoi ça va ressembler, si esthétiquement, même à moi, ça me plaît pas entièrement, je me dis que ce maître peut se retourner dans sa tombe en disant « Mon Dieu, l'art contemporain, quoi
!» Est-ce qu'on peut raconter justement une des œuvres que vous présentez là aux rencontres, qui s'appelle Icare et qui est une référence à la toile de... qui n'est pas complètement une toile d'ailleurs, au collage de Matisse, qui s'appelle Icarus, qui date de la fin des années 40, je crois 46, et qui est cette œuvre très connue où on voit en fait une ombre qui représente Icare, donc une espèce de silhouette noire avec des étoiles jaunes tout autour, sur un fond de gouache bleu. Et donc vous avez fait une mise en scène, vous prenez en photo un homme, vous avez disposé sur ses bras de quoi faire des ailes, et donc c'est à la fois incroyablement reconnaissable, on voit tout de suite la référence, et à la fois complètement différent de l'œuvre de Matisse. Comment elle est née, cette photo?
En fait, je voulais aussi revenir sur un mot très beau qu'a utilisé Taouz Damani, qui est la commissaire d'expo photographiée depuis Le Souffle, parce qu'elle a parlé de sampling. Elle a dit que je samplais le travail de Henri Matisse et que j'ai trouvé ça très beau parce que le travail de sampling, c'est réutiliser une mélodie pour en faire une nouvelle. Et je m'en étais... Enfin, en tout cas, j'avais pas mis un mot sur cette réinterprétation de Matisse. Moi, quand j'ai vu cette œuvre, j'ai tout de suite pensé... à l'actualité, j'ai tout de suite pensé, je me suis tout de suite dit que cette image était iconique. Elle était iconique parce qu'aujourd'hui, elle résonne d'autant plus fort par rapport à moi, mes sujets de prédilection, mes intérêts. J'y voyais un homme perdu entre ciel et terre, dans la mer, on peut le dire. Et perdu. Et donc, on ne savait pas où il allait, on ne savait pas s'il était bien. Et en fait, toute l'idée de reprendre cette œuvre emblématique, c'était pour raconter une histoire qui m'est plus personnelle, c'est en filigrane l'histoire de l'immigration d'une personne fictive, comme c'est souvent le cas en ce moment dans mes pièces. Et c'est très référencé parce que, et à la fois, les pièces que je produis, elles sont et référencée à l'Occident et à l'Orient, comme d'habitude, ou au monde extra-européen, puisque j'y voyais le poème L'Albatros, de Baudelaire, bien sûr, et à la fois... Je venais de découvrir en confinement les cérémonies Egungun, qui sont des cérémonies au Bénin et au Nigeria, des cérémonies vaudou, où les esprits paradent et dans des vêtements aux allures d'animaux. C'est une cérémonie qui rend hommage aux ancêtres, aux personnes disparues. C'est très coloré, c'est très vif, c'est sublime. Et voilà, j'y voyais des références de partout. Et donc, j'ai fait cet homme en Egungun qui essayait de passer, de revenir soit sur la terre, soit retourner aux cieux. Voilà.
Ce que j'ai pas redit, mais l'histoire d'Icare, c'est qu'il est pris dans ce labyrinthe que son père lui construit, son père Dédalus qui a construit le labyrinthe, mais ne peut pas en sortir, lui construit des ailes avec de la cire en lui disant ne vole pas trop près du soleil. Et Icare va être pris par l'hubris et voler de plus en plus près du soleil. Ses ailes vont fondre et il va se retrouver à chuter dans la mer. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait à la fois quelque chose de subversif parfois dans vos œuvres et de quelque chose d'assez doux. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé sur cette série Réplica, peut-être plus encore que dans certains de vos travaux précédents. Vous avez pu travailler, vous le disiez, sur les femmes algériennes, sur la question du voile, etc. Il y a toujours cette dimension extrêmement politique, mais il y a quelque chose... Peut-être parce que c'est coloré, peut-être parce qu'il y a quelque chose dans la mise en scène de très soigneux, de très précis. Il y a quelque chose d'assez joyeux. Et souvent, quand on parle des questions d'identité, notamment parce que c'est un questionnement qui est aussi beaucoup porté par les conservateurs, c'est souvent un questionnement que je trouve assez noir, assez sombre. Et je me suis dit que dans vos œuvres, il y avait la possibilité d'un questionnement joyeux sur l'identité.
Oui, parce que je suis joyeuse, je l'ai toujours été et j'ai toujours... Autant je crois que je n'avais pas conscience que la forme de mes pièces allait être occidentale et orientale, autant j'ai tout de suite compris que la passerelle qui me menait de ma culture de naissance à mon pays d'origine m'intéressait. Donc moi, j'aimais bien cet entre-deux, ce jeu entre une rive et une autre. Et donc, j'en ai toujours fait quelque chose de positif, une force positive. Alors, autant, en effet, Révélétoff était plus un combat face à l'imagerie qu'on avait de ces femmes, qu'on a toujours d'ailleurs, de ces femmes voilées, autant... Là, dans mon travail autour des objets et des figures et la réinterprétation d'œuvres de Matisse, je le fais d'une toute autre manière, mais aussi parce que je suis plus en paix avec moi-même et que c'est important de le montrer. Et en plus, on sortait du confinement, du premier confinement, quand j'ai fait ce travail, et j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de voir des choses très colorées. Et je pense aussi que ces pièces qui sont très en lien avec l'Afrique de l'Ouest notamment et le Maghreb, puisque chaque objet est minutieusement sélectionné au préalable pour ce qu'il veut dire, soit pour son aspect symbolique, soit parce qu'il est... Il a un lien personnel avec mon histoire. Et l'Afrique, c'est quand même un continent qui moi, continue de me bouleverser et qui me fait pleurer de joie. Et donc, je voulais mettre tout ça dans ces pièces.
La photo, sans doute plus que d'autres arts, part forcément du réel, éventuellement pour le subvertir, pour le transformer, pour le distordre ou le renouveler, mais ça intègre une part du réel. Est-ce que cette dimension-là, elle est importante pour vous, pour produire une œuvre politique et pour transformer le réel, qui est le but de la politique ?
Oui, je me suis posé la question en donnant naissance à mon enfant. Qu'est-ce que j'allais lui dire sur ce que je fais et le but de ce que je fais, parce que c'est important. Et bon, je me pose toujours la question hein, sur, sur cette réponse que je vais lui apporter. Mais alors, je pense que intrinsèquement, il est, j'y pense à la réalité, au monde qui m'entoure, à l'actualité, à toutes ces, tous ces questionnements. Après, il n'est pas forcément... je ne vais pas faire une pièce parce qu'il est en lien avec quelque chose lié à la réalité. Mais je pense que je le comprends après. En général, je mets un peu de temps, je fais la pièce. Parce que j'appelle ça pièce, parce que même si c'est la plupart du temps des photos, ça peut se transformer là en faisant des retables, en faisant des ogives. Donc j'appelle même plus ça photo. Et on verra mes prochaines pièces photographiques. Peut-être que ce sera des installations. Mais en tout cas, oui, je pense que l'art est un parallèle à l'histoire et c'est une forme de langage autre pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc je ne suis pas obligée de parler d'un événement précis, d'une personne qui existe. J'ai accepté là récemment de parler de choses fictives, mais je sais qu'elles sont toujours liées à ce qui m'entoure, donc à la réalité.
Et du coup, en la comprenant mieux, vous pouvez la transformer.
Exactement. Exactement. Je la transforme et j'en fais un peu mon combat et je montre un peu mes idées. En fait, ce qui est extrêmement beau, plus on produit, plus on pratique et plus en fait on montre un peu une définition de nous en non-humain. Voilà.
Les rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 25 septembre 2022. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Maya Inès Thouam à l'église des Frères Prêcheurs. Et j'en profite pour vous parler de notre série Un autre regard, mini-série de notre podcast Une autre histoire, consacrée au récit des grandes femmes photographes qui ont changé cet art. Vous entendrez Julie Gayet vous raconter les vies fascinantes de Lee Miller ou encore Gerda Taro. Je suis Charlotte Pudlowski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au club louismedia.com/club. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.